Pittsburgh! One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago.
C'est ton micro.
Bonsoir. Bon, oh, pas trop le cœur à recouler quand même ce soir.
Les bébés dinosaures sont avec vous pour 1h30 de rock des années 70 sur Canal Sud 92.2 MHz de 21h30 à 23h. Et c'est vrai que. Alors, c'est une habitude chez nous, mais vraiment ce soir, les fossoyeurs ne savent plus où donner de la peine. Ouais.
Ben, on rendra hommage tout à l'heure à Betty Davis, bon, qui n'avait plus d'actualité musicale depuis quelques décennies, mais quand même, qui a marqué son époque, bien qu'elle soit restée dans l'ombre très longtemps.
Hein. Voilà. Et qui est, comment dire, dont on s'est rendu compte de plus en plus au fur et à mesure que les années passaient.
Oui, c'est ça.
Qu'elle avait marqué son époque. C'est assez rigolo, sur France Inter, ils ont parlé de son décès. Alors, il y avait un journaliste qui faisait l'article, et puis tu avais d'autres journalistes radio plus jeunes qui disaient, qui sait, j'ai découvert aujourd'hui.
Oui. Elle n'est pas devenue la star qu'elle aurait mérité d'être, disons. Mais bon, elle a eu quand même une influence souterraine, et puis lorsque ses disques ont été réédités, alors là, ça a été une espèce de raz-de-marée. C'est devenu une sorte d'égérie du funk avec 30 ans de retard, quoi, mais bon. Donc voilà, il est décédé récemment. Et puis il y a notre pote Jean-François qui est mort cette semaine. Et donc on va lui rendre hommage aussi. Il venait de temps en temps au bébé dinosaure. Il venait plus depuis quelques temps puisqu'il y avait des soucis médicaux assez graves.
Oui, comme tu l'as fait élégamment remarquer, c'était le meilleur animateur de radio muet du monde.
Le seul, je pense même. Et à ce titre-là, il restera lui aussi dans l'histoire. Il venait. À la fin, il a participé au bébé dino quand même un certain nombre d'années. Il venait à la fin, il n'avait plus de voix, donc il nous mettait ses commentaires sur un petit bout de papier. On passait les morceaux et on les commentait à sa place.
Ouais, et puis il nous faisait des grands signes quand on se trompait.
Voilà, ce qui arrivait de temps en temps, faut bien l'avouer. et donc, il nous dégotait souvent des morceaux assez surprenants, disons. Donc là j'en ai choisi un que me semble-t-il il nous avait amené, alors pas celui qu'on va s'écouter maintenant mais qu'on s'écoutera plus tard dans l'émission. Et pour lui rendre hommage, on s'est écouté à nouveau Sweet Jane, la version du Velvet. C'est un immense fan du Velvet, leur album Loaded de 70, c'est le morceau qu'on a écouté hier
sur son cercueil
avec le cercueil, portable de Tommy Boy posé sur le cercueil.
Voilà, le cercueil servait de caisse de résonance. Le cercueil servait de boombox au téléphone.
Voilà, une bière à la main, je pense que c'est ça qu'il aurait voulu. Donc, on s'écoute Sweet Jane par le Velvet, en hommage à notre pote Jeff.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh.
Diana starts back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim, the march of the wooden soldiers. You can hear Jack say, get ready. Sweet Jane, come on baby. Sweet Jane, Sweet Jane. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
Sweet Jane, Velvet Underground, avec cette petite intro, effectivement, qui surprend toujours, parce que, ben voilà, on a l'habitude de Sweet Jane dans les versions live, dans les reprises, où ça commence direct sur le riff. Eh bien, écoute, un autre morceau que Jean-François nous avait apporté à l'émission, et j'ai des preuves, car j'ai gardé certaines des programmations qu'il faisait soigneusement à la main, sur un papier. Quand il venait, il nous disait, voilà, ça sera ça le premier morceau, tac, 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 voici l'année, l'album, enfin, toutes les références à la Baby Dinosaur. Et bien, c'est Death May Be of Santa Claus. Titre, évidemment, le choix du titre est d'un goût parfait, mais c'est le goût dinosaure, qu'est-ce que vous voulez.
C'est un morceau qu'on passait à une époque assez souvent dans les émissions juste avant Noël.
C'est un bon morceau de Mott The Hoople, de leur album Brain Capers, qui est probablement l'album...
Le plus musclé,
riff de guitare et tout, de la première période de Mott The Hoople. Récemment, j'ai lu un extrait d'interview de Ian Hunter qui disait « Quand je réécoute cet album, Brain Capers, j'entends les Sex Pistols, waouh !» 4 ans avant, quelque chose comme ça. 5 ans.
Ils avaient ce producteur sur cet album, là, dont j'oublie le nom, là, qui a produit le deuxième New York Dolls, qui produisait aussi de la pop 60s, semble-t-il.
Shadow Morton,
il me semble que c'est lui qui produit Brain Capers.
Ah ouais.
Et qu'il est harangué en studio, enfin il faisait en sorte qu'il soit totalement survolté, là, et ça s'entend effectivement.
Eh bien, donc voici Brain Capers, pas Brain Capers, Death May Be of Santa Claus. Alors c'est tiré d'un disque que j'ai dans un coin qui dit que c'est du live, je suis pas sûr que ce soit le cas. En tout cas, c'est une version assez fidèle par Mott The Hoople eux-mêmes, bien entendu. Ouais, ouais, c'était peut-être du live dans le studio. On n'entend pas un très grand public. Mais il y a peut-être deux, trois mecs derrière pour...
Voilà, ouais, live en studio, on va dire.
Death may be a Santa Claus.
Bette Davis maintenant, donc. La tigresse du funk. Avec son premier album sorti en 73. Alors, elle en a sorti trois. 73, 74, 75, je pense. Et qui ont eu quand même certains succès critiques, mais aussi qui ont semé l'effroi, notamment chez les groupes religieux ou les programmateurs radio, à cause de ces textes qui étaient quand même assez crus, on va dire, et de ces attitudes aussi très provocatrices. Bette Davis, ce nom de Davis, ben, c'était lié au fait qu'elle s'était mariée avec Miles Davis. Enfin, ça a duré un an, mais elle a gardé le nom de famille. Et avant cet album, elle avait déjà écrit des morceaux, notamment elle a écrit un tube pour les Isley Brothers, elle avait écrit le morceau Uptown, je crois. Ça, c'était vers 69, un truc comme ça. Alors qu'elle était très jeune, bon, elle était top modèle, et elle se lançait dans une carrière musicale, elle avait déjà enregistré avec Miles Davis, enfin Miles Davis l'avait chaperonné, disons, à l'époque où c'était son épouse, et avait convoqué tout un tas de musiciens de jazz brillants, enfin, pour des sessions studio. Mais comme après elle s'est séparée de lui, bon, il n'a pas, semble-t-il, fait beaucoup d'efforts pour que les bandes sortent. Elles ont été rééditées il y a quelques années. Donc c'était le premier album perdu en quelque sorte. C'était pas mal, mais un peu inégal, il y avait un peu de tout là-dessus. Et puis elle enregistrera par la suite, à la fin des années 70, elle fera des sessions qui elles aussi seront enterrées et sortiront beaucoup plus tard. C'est le quatrième album perdu. Il y a au moins deux albums perdus dans sa discographie, mais qui ont été réédités parce que lorsque les albums, les trois officiels ont été réédités, ça a eu un énorme succès quand même. En tout cas, chez tous les fans de soul, de funk et de ce qui est un petit peu underground, quoi, parce que c'est une légende underground, on va dire, Bette Davis. Il y a très peu d'images d'elle qui existent sur scène. Il y a un concert au moins qui est enregistré, qu'on avait passé des extraits enregistrés en France. C'était sa tournée de 74, je crois.
À
76, peut-être, t'as raison.
À ce festival dans le Var, là, sur
le circuit Paul Ricard. C'est ça, oui. 76, peut-être, ouais, t'as raison. Donc c'était un peu tardif, c'était la fin de ça. De sa carrière musicale, disons.
Mais ça a marqué les esprits parce que sa nécro dans le monde commence par les souvenirs du type qui a écrit la nécro, ah, qui était à ce festival.
Donc en fait, elle avait des fans, pas énormément, mais des fans acharnés qui avaient été complètement estomaqués par cette tigresse là, totalement déchaînée par ses paroles et par son funk qui était, alors, comme certains l'ont décrit, un peu trop hard pour les fans de soul et puis un peu trop funky pour les fans de rock. Donc elle était un peu entre les deux. Mais enfin, c'est un peu le black rock, quoi, dans sa plus belle définition, un peu la funkadélique des débuts, quoi. Une espèce de mélange là, de riffs très agressifs et de groove torride. Et une voix fantastique. Donc elle avait tout pour devenir une star. Elle était, en plus, elle était magnifique, très sexy, très provocatrice, mais non, ça n'a pas marché. Elle était un peu décalée, sans doute, par rapport à son époque, et peut-être par rapport à la scène dans laquelle elle évoluait. Et donc, c'est plus tard qu'elle est devenue vraiment, qu'elle s'est révélée au grand public par les rééditions des albums. Il y a eu un best-of aussi qui est sorti, tout ça vers la fin des années 90, début 2000, par là. Un documentaire a été fait sur elle aussi, mais qui n'est pas passionnant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images d'archives, donc. Il n'y avait pas grand-chose à montrer. Il y a quelques photos d'elle live, mais j'ai jamais vu une seule image de Bette Davis sur scène, alors que je pense que ça devait être quelque chose. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Bref, on va... Donc, Bette Davis est décédée cette semaine aussi, je crois.
Oui, oui.
Voilà. Et maintenant, effectivement, elle a été célébrée, alors, dans Libération, dans Le Monde, dans tous les grands médias.
Je te dis, même France Inter.
Même France Inter, bah oui. Donc elle a une sorte d'aura de respectabilité, là, maintenant. Là. Mais en fait, pour nous, elle reste quand même la provocatrice.
Ouais, la sur les pochettes.
C'est ça, qui n'hésitait pas quand même à avoir des jeux de scène très suggestifs, qui étaient un peu à Tina Turner, puissance 1000, quelque part, quoi. C'est quand même ce personnage-là que nous, on adorera éternellement. Donc le premier album de Bette Davis, attention, alors il y avait des musiciens prestigieux quand même, parce qu'elle était connue sur la scène musicale, il y avait Neil Schon à la guitare, futur Journey,
ouais.
C'est pas qu'on adore Journey, mais bon, c'est sûr que c'est un bon guitariste. Mais surtout, il y avait la rythmique de Sly and the Family Stone, quand même. Greg Errico à la batterie, qui était le producteur aussi, si je me souviens bien. Et Larry Graham, tu sais, celui qui a inventé la basse péteuse. Là.
Ouais, 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 et qui a fait le Larry Graham Central Station.
Voilà. Et il y avait deux autres musiciens de Graham Central Station, qui je pense existaient déjà à l'époque, en 1973. Et d'autres musiciens venus, des cuirs venus des Tower of Power. Enfin bref, c'est des musiciens prestigieux qui étaient avec elle. Les Pointer Sisters font aussi des chœurs sur certains morceaux, enfin bref. Et c'est un album magnifique. Les trois premiers sont vraiment. Les trois officiels sont tous les trois très bons. On s'écoute donc le premier morceau du premier album de Bette Davis, sorti en 1973. If I'm in luck, I might get picked up. Tout un programme.
I sat on wiggling my fanny. Ooh, 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 ooh.
If I'm in luck, I might get picked up. Betty Davis. Et bien maintenant, c'était un blind test pour Sylvain, mais il est un peu pas là. Donc, on va passer le morceau. Sylvain va reconnaître le morceau, mais va-t-il reconnaître le groupe qui joue le morceau ? Ça, c'est la question à 1000 euros. C'est pas possible. Alors Sylvain n'a rien écouté.
Là, je suis au téléphone. Mais sûr que non, j'ai rien écouté.
Bon, alors
oui.
Voilà.
Oui, d'accord.
C'était ton blind test. Alors, c'est quel morceau ?
Love Me When I'm Down.
Non ! C'est pas possible. Junior's Wailing, ça s'appelle.
Ah ouais, d'accord. Non, j'ai pas reconnu. Ouais. Mais c'est par qui, ça ?
Alors là, justement.
C'est-à-dire que, bon... Ce riff, on a dû l'entendre dans 353 autres morceaux, hein, faut être honnête. Et alors, donc, je suis censé reconnaître qui c'est ça? Non, mais attends, tu rêves.
Alors, non, mais attends, par qui c'est connu?
Par Status Quo, a priori.
Voilà, oui. Par Status Quo. Junior's Wailing, c'est un des chevaux de bataille de concert à Status Quo. Mais c'est une reprise, hein. Quand on regarde les rondelles des disques, on sait que c'est pas écrit par Rossi, ni par Parfit, ni par Lancaster. Et ça a été écrit, en fait, par, je sais plus les noms des mecs, mais c'était les gens de Steamhammer, un groupe de blues rock qui n'a pas fait une grande carrière. Mais Status Quo ont vu un concert de Steamhammer, se sont rendus compte qu'ils jouaient ça au rappel, que la foule était absolument enthousiaste, que ça marchait très bien, et donc ils ont dit on va le reprendre. Et puis ensuite ils ont tendu le bras aux gens de Steamhammer en leur disant on le met sur notre disque, Macaulay Crazy Spoon je crois, mais vous nous donnez la moitié des royalties quand même.
Oh, le salopard.
Et voilà. Et les mecs ont dit ah bah ouais bon ben bah, d'accord, parce que sinon ils le feront pas, et c'est quand même mieux d'être un peu connu pour quelque chose. Alors voilà, bam, ils se sont laissés faire. Et donc
le business,
l'horrible business. Et oui, voilà. Donc alors c'est sorti en single et peut-être sur un album de Steamhammer vers 1970. Et je vous le passe parce que je l'ai récupéré sur une compile, le volume 3 de la série de compiles I'm a Freak Baby.
On va s'écouter quelqu'un maintenant qui se foutait éperdument du business. Neil Young.
Neil Young.
Et oui. C'est un...
Ouais, pas tout à fait quand même. Hein.
Oui. Hmm. Mais enfin bon, disons qu'il, lui, il savait aussi tordre le cou au major voilà. Qui tentait de l'arnaquer. Quoi.
Il est farouchement indépendant, il cherche pas à faire des milliards, mais il tient à son truc. Hein.
Et on va s'écouter un morceau que nous avait ramené Jean-François, dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il avait quand même le don pour trouver des choses un peu étranges, des fois qui traînaient sur Internet. Il nous avait amené cette version de Hey Hey My My, un des grands tubes de Neil Young, mais accompagné par Devo, ce qui est une association quand même étonnante.
Et oui, mais à cette époque-là, Neil Young s'intéressait au punk.
Oui, et puis, bon, visiblement, ils ont... Voilà, ce morceau est enregistré pour un film, ou une vidéo en tout cas, qu'avait préparé Neil Young, qui est sorti en 82, qui s'appelait Human Highway. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça.
Non. C'est le titre d'une chanson de Neil Young qui existait depuis un moment, et qu'il a sorti aussi sur l'album de 78.
Alors, à l'époque. On peut voir cet extrait là où il joue donc Hey Hey My My. Alors c'est le chanteur de Devo hein, qui chante, lui, on entend essentiellement la guitare Neil Young, et Jean-François nous avait amené la version courte, de 2 minutes et quelques, mais là c'est la version entière de cette reprise, et ça dure plus de 9 minutes, et alors le final est totalement bruitiste et déjanté, enfin, c'est un truc assez incroyable, on voit que Neil... alors, il y a des images d'eux en studio, semble-t-il, en train de martyriser leur matériel et de
ouais. Apparemment c'est drôle à voir, c'est la séquence de rêve du film Human Highway. Bah,
voilà,
oui, sur Internet on trouve un extrait d'un chapitre d'une biographie de Neil Young écrite par un certain Jimmy McDonough qui dit que ça a été enregistré en 78 au studio Different Fur,
d'accord,
à San Francisco. Et que Mark Mothersbaugh, le leader de Devo, si tu veux, qui s'est reconverti, en fait, qui est revenu à l'écriture de films pour les dessins animés, quand mes enfants étaient petits, ils regardaient les Rugrats, tu sais, les Rugrats, comment on appelle en français, une série de dessins animés avec des bébés.
Oh bah, ben là, tu m'en demandes trop, là.
Bon, les Rugrats en anglais. Et la musique de ce truc-là, de ce dessin animé pour enfants qui passait partout, tout le temps, c'est de Mark Mothersbaugh, mais beaucoup plus récent que Devo. Hein. Et donc, tu sais que dans Hey Hey My My, il y a The King is Gone But He's Not Forgotten, parce que Elvis Presley venait de mourir. Is this the story of Johnny Rotten?
Oui.
Et Mark Mothersbaugh n'a pas voulu chanter Johnny Rotten, alors il a dit Johnny Spud. Parce que Devo avait une sorte de fétiche pour les pommes de terre, les spuds.
Oui, oui.
Les patates.
ça se voit sur certaines pochettes de leurs disques, voilà. Effectivement.
Et Et je crois que... et aussi, ils ont chanté, c'est là que Neil Young a découvert la phrase « Rust Never Sleeps », qui a été le titre de son album de 78. Parce que Divo, Mark Mothersbaugh, il a improvisé, il a chanté des trucs. Et il a chanté « Rust Never Sleeps » parce qu'à l'époque où Divo faisait surtout des films, en fait, de travailler pour la publicité, ils avaient eu à utiliser ce slogan pour une publicité, c'était quoi d'une firme qui vendait des traitements contre la rouille des voitures. C'est qu'aux États-Unis, il y a surtout dans le nord, là, quand il y a de la neige et du salage de route et tout, le bas des voitures, souvent les vieilles bagnoles américaines, tu vois, c'est de la dentelle de rouille. Et donc c'est important d'avoir des traitements anti-rouille. Et donc Neil Young a dit, ah ouais, Rust Never Sleeps. Alors ça, c'est chouette comme phrase, je la pique. Et il l'a remise dans une des versions de Hey Hey My My. Il en a fait le titre de l'album et il a dit c'est comme ma carrière, plus je continue, et il a dit ça en 79, plus je continue, qu'est-ce que ça doit être maintenant, plus il faut que je me batte contre la corrosion.
Ouais. Oh, il a réussi à gagner, hein, finalement.
Ah ouais, je trouve qu'il a pas mal réussi, Neil Young, quand même, hein, par rapport à beaucoup d'autres. C'est assez frappant.
Voilà, les bébés dinosaures, on vous passe des morceaux très longs, mais nos commentaires sont encore plus longs. On s'écoute donc Hey Hey My My, Neil Young accompagné par Divo. Et oui.
Ils sont en train de faire des choses horribles à un synthétiseur. Ou alors Neil Young est en train d'écrire Artweld. Prépare.
Oui, encore quelques secondes de zigougoui. Oui, alors on est parti sur une autre planète là. Hmm.
Ah, c'est la séquence de rêve, hein. Le film. Donc t'es censé planer quelque part mollement.
Trois rêves et cauchemars quand même. C'est...
Oh.
Voilà, une bizarrerie que nous avait amené Jeff. Mais dans une version raccourcie. Là, c'était la version intégrale, donc. Oh, si, si, si. On me demande de s'y combien.
Quand même, Mark Mothersbaugh est quelqu'un qui réussit l'exploit assez peu commun de chanter en 45 tours.
Voilà, c'est vrai. C'est, même c'est live. Magnifique, magnifique. C'est étonnant.
Voilà.
Voilà.
Bon, eh bien écoute, on va se dégraisser les oreilles avec.
Non, ben, je crois que c'est déjà fait. Hein, c'est...
Nisaka Pangangosi.
Ah, d'accord. Oui. Ah ouais, le Zamrock.
Vous voyez, exactement. Un titre qui doit être en Chichewa.
Alors, sûrement.
Voilà. C'est, en tout cas, c'est ce que me dit Google Translate. Quand je lui demande d'identifier la langue, il me dit c'est du Chichewa.
Bon.
Et le Chichewa est une des langues qui sont d'usage en Zambie. Et en fait, c'est un morceau de la Ngozi Family, ou Ngozi Family, je ne sais pas comment on prononce, le NG qui est au début. Et tiré de leur premier album. 45,000 volts. Et donc, le leader Paul Nozy, dont le vrai nom était en fait Paul Dobson Nirongo, et qui avait pris le pseudonyme de Ngozi. Alors ça, j'ai trouvé quand même un traducteur chichewa anglais. On trouve ça sur Internet, tout sur Internet. Et Ngozi signifie « danger ».
Si ça se trouve, ça raconte n'importe quoi, hein.
Ouais, j'ai pas beaucoup d'autres mots chichewa pour le tester, malheureusement. Bah écoute, tu demanderas à tes copains zambiens si tu en trouves.
En tout cas, c'était le guitare héros du Zamrock, ça c'est sûr.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu veux au bébé dinosaure? Si tu parles de rock, parle zambien.
Yeah. sinifuna vokamba kamba vokamba kamba vileta pa mulomo chifukwa ine niziva kuchaya tuko upota ngozi.
Family, la famille du danger. Donc d'ailleurs, je viens de voir sur internet une autre version de la couverture de ce disque où le titre c'est pas 45 000 volts, c'est Danger 45 000 volts.
D'accord. Donc, ce qui corrobore ta traduction du quoi du
Chichewa.
Du Chichewa.
Ouais, ma traduction, voilà. Celle que j'ai trouvée dans le traducteur Chichewa anglais. Voilà, ça existe.
Donc c'était un des trois groupes majeurs du Zamrock, mais il ne faut pas oublier Witch aussi, qu'on a souvent passé, et Musée Outoudien, qu'on a passé moins souvent, mais sur lequel on reviendra sans doute. Il y a eu des compiles consacrées au Zamrock qui valent largement qu'on y penche notre petite oreille. On va s'écouter un petit jingle maintenant.
Like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day, Matt Busby.
Matt Busby.
Alors,
c'est pour toi, Matt Busby. C'est un célèbre, un célèbre président de club. C'était, je crois qu'il est mort maintenant, un célèbre président de club qui a longtemps été le président, je crois, de Manchester. De foot anglais.
Voilà. Et oui, même les Beatles faisaient référence au foot, évidemment.
Ancien joueur de foot lui-même. Et
d'accord, si bon, j'avoue que sur Internet, je ne connaissais pas ce nom, mais bon.
Oh ben moi non plus. Alors là.
Oh bah, tiens, alors, long, tu t'es un
rien dans
grand
le
spécialiste
rien
du foot anglais,
tout dans Wikipédia.
Eh bien, c'est la rubrique Digit. Donc on va s'écouter un morceau pour rendre hommage à l'émission Digit. Un de nos groupes fétiches aussi des débuts de Digit. Un groupe qui avait sorti son premier album en 88. Et qu'on a écouté en long, en large, en travers, au tout début de Digit, qui a dû démarrer en 90, si je me souviens bien, l'émission. Hein. Le fanzine, c'était un petit peu plus tard. Et c'était les Nine Pound Hammer. En plus, c'est un groupe qui, a un temps en tout cas, était sur Crypt Records, qui était quand même le label fétiche de Digit au début. Et bien, les Nine Pound Hammer sont toujours là. Et enfin... ils sont là épisodiquement, mais ils continuent à sortir des albums. Et ils viennent de sortir leur 11e disque qui s'appelle When the Shit Goes Down. Alors, ils ont mis une petite étoile à la place du i, évidemment. Le premier, c'était en 88. Celui-là est sorti en octobre 2021, je crois. Et le précédent était sorti en 2017. Donc, tu vois, des petits moments comme ça... on a des petites éclipses entre chaque album, mais ils sont toujours là, hein, et c'est toujours pareil. C'est... il reste plus, je pense, que Blaine Cartwright était la guitare et Scott Llewellyn, le chanteur du line-up d'origine. Mais c'est toujours le même genre de truc. Alors, un mix entre des influences country, des morceaux speed, punk, et rentre dedans, et des mid-tempo bien velus, totalement jouissifs à vrai dire. Et on se rappelle avec émotion du concert des Nan Poonammeur, la salle éphémère, je sais pas si tu y étais. C'était monstrueux. Alors tu sais que c'est Scott Llewellyn et Blaine Cartwright, c'était deux gars assez baraqués, pour ne pas dire légèrement surpoids, mais ils sautaient en l'air comme des brutasses, ils bondissaient sur scène, et à chaque fois t'avais le plancher de la scène d'éphémère qui tremblait, tu sais, on était là, putain, ça va s'effondrer. Le public était déchaîné, et ce soir-là, ils ont repris Rock'n'Roll All Night de Kiss et Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Ah, oh, je te dis pas la tronche de Gilda, j'étais là, ah putain, tu vois. Mais oui, j'étais aux anges, c'était un moment de pur bonheur.
Et à l'époque, c'était nettement moins respectable. Ah, c'est sûr. On n'avait pas encore réhabilité.
Oh punaise, non. C'était une joie et une sorte de surprise, parce que c'est vrai que leur premier album, les deux premiers albums, il n'y a pas de reprise 70s, ils en ont fait après par la suite sur certains disques. Mais puis c'était du co-punk, enfin du country punk, mais plus punk que country quand même. Donc c'était surprenant, mais finalement tout à fait logique. Ils avaient baigné là-dedans, et c'était assez logique que ça ressorte à un moment ou à un autre. Mais ça nous avait fait beaucoup, vraiment un très plaisir, tu vois, de constater que les groupes fétiches de Digit étaient aussi capables, des fois, de reprendre du Kiss. Et donc, Nine Pound Hammer, on s'écoute leur tout dernier album, un morceau qui s'appelle Two Legged Dope.
Two leg dope.
Oui.
Okay.
Ever since I was a little baby, hello and dopamine always needed extra dose. Walking through the world feeling crazy, searching for the thing gonna fill the void. I'm looking for that two-legged dope. Might as well go get a rope. Soon she'll leave me hanging. I'll be back to banging. Love, there just ain't any hope. Woke up in the morning feeling dope sick. I hadn't used a thing. Couldn't get her out of my head. Always looking for that warm and fuzzy. I'll sacrifice my kids.
Nine Pound Hammer.
Two Leg the Dope.
Voilà, du rock effectivement velu de partout.
Alors rappelons que Blaine Cartwright a eu aussi une carrière parallèle avec sans doute beaucoup plus de succès commercial avec Nashville Pussy.
Eh oui. Mais enfin, là, c'est peut-être pas lui la raison du succès.
Non, enfin bon. Disons que le. Le contraste entre lui, entre les deux guitaristes, c'est-à-dire lui et son épouse de l'époque, qui faisait les solos, était effectivement une partie du succès, je pense, de Nashville Pussy. Quoi. Le gros plouc qui fait cette danse de cow-boy, et puis la tigresse, la furie à la guitare, là, qui se roulait des pelles avec la bassiste, qui se faisait des soufflettes sur scène. Enfin, moi, c'était quand même quelque chose, Nashville Pussy, il faut bien l'avouer. Alors, je sais pas, Nashville Pussy a l'air d'être. Dans le placard, là, enfin, de temps en temps ils sont ressortis aussi, mais j'avoue que j'ai suivi de loin les derniers albums étaient moins intéressants, alors qu'ils étaient plus, comment dire, notre genre de. Plus dans notre créneau, quoi.
Ah
c'est
oui,
quand même
du
hard rock 70s, révolution.
Franchement, hard, leur dieu c'était Lemmy et Angus Young. Hein.
Voilà, mais les 3-4 premiers albums, le premier est fantastique, mais plus punk. Les 3 suivants sont. 3 ou 4 suivants sont bien après. Bon. Voilà, Nine Pound Hammer, le truc c'est que ça ne varie pas d'un iota, quoi. Ils sortent un album tous les 4 ans, 5 ans, mais entre 88 là, et ce dernier, bon, c'est peut-être un peu plus lourd, un peu plus. Mais tu retrouves la même ambiance, quoi. C'est. Voilà, ça doit être l'alcool frelaté qui conserve.
Eh bien, quelqu'un qui n'a pas été conservé, c'était le gars qui faisait le saxophone sur Get It On de T-Rex.
Ah oui,
Ian McDonald.
Voilà, oui. Oui, c'est uniquement pour ça d'ailleurs qu'il mérite d'être dans les Bébés Dinos.
Bon, qui est plus connu quand même pour avoir écrit la chanson In the Court of the Crimson King. Parce que c'est de lui. C'est de lui. Hein, sur l'album, tu as. Alors, tous les morceaux sont co-signés avec Sinfield, mais Sinfield, c'est le parolier. Pete Sinfield. Sur le premier album de King Crimson.
De qui?
De King Crimson. Et,
ça me dit vaguement quelque chose.
Et voilà. Et puis, tu as des morceaux qui sont co-signés par tous les membres du groupe, et puis tu as des morceaux qui sont signés seulement à McDonald's.
Non, mais tu as choisi Get It On, j'espère, pour lui rendre hommage.
Et j'ai choisi In the Court of the Crimson King.
Oh là là!
Qu'on a assez peu passé, ce morceau.
On l'a déjà passé.
Une fois.
Oh bah.
Ouais, j'ai regardé.
C'est
une
déjà
fois.
Pas mal.
Une fois seulement.
Get It On, je suis sûr qu'on n'a jamais passé Get It On.
Alors qu'on a passé 4 ou 5 fois 21st Century Schizoid Man. Qui est
l'autre
morceau.
Plus court, c'est l'avantage.
Voilà l'autre morceau marquant de cet album. Un album, quand même, qui, autant par sa pochette que par son son, a vraiment marqué.
Non, mais c'est deux morceaux ont quelque chose, oui, d'unique, effectivement. Bon, mais
ouais,
surtout le deuxième, surtout le plus court. Quoi, ouais. Voilà. Après, je trouve que le reste du disque, quand même, franchement, non, c'est pas du tout mon truc.
Ouais. Mais 21st Century Schizoid Man, ça a été fait avant le premier album de Black Sabbath, monsieur.
Oui, oui.
Et
oui.
Avec un son qui, là, est sans doute dû à Fripp.
C'est quand même assez étonnant, il faut l'avouer.
Qui,
oui,
qui présage Black Sabbath. Mm. Bien, allez, hop, un petit In the Court of the Crimson King pour la route.
Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
Thank you.
Ça y est, ta torture est finie, Sylvain.
Ah, c'est bon, je peux remettre le casque, je peux enlever mes bouchons.
Oui.
T'es sûr parce qu'il y a une fausse fin là.
Non, j'ai cru
que je ne me remettrais pas.
C'est un vinyle là, tu vois. Bon, on voit que le disque a arrêté de tourner. Voilà. L'aiguille est contre le papier.
Tu sais qu'il existe un groupe toulousain qui reprend King Crimson, qui fait un, comment on appelle ça, enfin, fake King Crimson. Mm. C'est une habitude toulousaine, mais d'habitude c'est les faux Ramones, les faux Misfits. Mm. Faire les faux King Crimson, c'est que ça demande certainement plus d'heures de répète et, et une technique assez... Mais mes voisins, qui sont fans de King Crimson, les ont vus sur scène et ils ont dit qu'ils avaient été impressionnés par... la façon dont il reproduisait les morceaux de cet album en particulier.
Donc, j'ai oublié leur nom par contre. Mais... il s'appelait King Kong Crimson.
Bah écoute, regarde internet, King Crimson Toulouse, peut-être que leur nom apparaîtra. Mais j'ai l'antidote, on va revenir à un peu de naïveté, un format 2 minutes et quelques, une reprise 50s, rappelons que les 70s c'était aussi le revival des 50s, avec notamment Shanana évidemment, un album un petit peu tardif, enfin de 74 mais qui était déjà leur, je sais pas, leur 5 ou 6ème, ou 4 ou 5ème, je sais plus, produit par Jack Douglas avec Bob Ezrin aussi, donc le son était quand même beaucoup plus soigné que sur les albums précédents, et des reprises bien sûr, de classiques ou de morceaux moins connus, mais un peu de, toujours des versions très rafraîchissantes on va dire, et très assez rigolotes, et là c'est le morceau Shaboom, Life Could Be a Dream, des Chords, et en regardant... sur notre cerveau annexe, là, on s'est aperçu que certains critiques considèrent que c'est le premier morceau de rock'n'roll enregistré en 54. Mais enfin, nous, on a des doutes quand même.
Ouais.
Sur le terme rock'n'roll, déjà. C'est plutôt une bluette sympathique et qui fout la patate. Les Shanana, donc, 20 ans plus tard, reprenant les Chords.
Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom, oh, life could be a dream.
Shaboom.
If I could take you up to paradise up above.
Shaboom.
If you would tell me I'm the only one that you love.
Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we meet again. Boom, boom, boom.
A-ling-a-ling-lang, a-lang-a-lang-a-lang.
ouais, ça dure pas 10 minutes comme King Crimson, hein, attention. Il
faut être réactif, oui.
Il y avait de la flûte aussi, t'as vu? L'album Hot Sox des Shanana, donc en 74, reprenant Shaboom des Chords.
Eh bien, on va s'écouter un petit peu Cradle, qui avait pour, qui avait pour slogan, alors qu'est-ce que c'était? The hand that rules the cradle will rock the world. Alors, enfin, je crois que c'est une parodie d'un truc plus ancien qui dit « The hand that rocks the cradle will rule the world », c'est-à-dire la main qui berce le berceau contrôle le monde, pour dire que les femmes, même si elles restent au foyer, comme c'est les mamans, les hommes les écoutent, enfin bon, bref. Mais Cradle, c'était un groupe de rock de Detroit, avec une famille musicale bien connue, du moins certains membres d'une famille musicale bien connue, la famille Quattro, bien sûr. Et donc, Cradle avait succédé aux Pleasure Seekers. Et c'était de la part des sœurs Quattro. Alors, c'était plus tout à fait les mêmes sœurs. Je crois qu'il y en a une qui était Arlene, qui était dans les Pleasure Seekers, qui a quitté la scène, qui est devenue, je ne sais plus, manager, quelque chose comme ça. Mais, et puis, une plus jeune qui devait être Nancy, qui a obtenu de rentrer dans le groupe. Et c'était une musique un peu différente parce que les Pleasure Seekers étaient quand même un petit peu contrôlés par leur label et puis soyez belles, portez des mini-jupes et puis voilà, faites ce qu'on vous dit. Tandis que...
Vous avez eu un certain succès quand même.
Oui, bien sûr, je ne dis pas que... Tu peux avoir du succès en étant une parfaite marionnette.
Non mais les Cradle en question, est-ce qu'elles ont...
Est-ce qu'elles ont sorti quelque chose d'officiel? Voilà, c'est ça. Et c'est récemment, là, en 2020, que le label Modern Harmonic a remis la main essentiellement sur la bande d'un concert mémorable qu'elles avaient fait au début de 1970.
Bon, il y avait Suzy quand même, hein, parce qu'il faut préciser, c'est quand même elle la plus connue des frangines.
Bien sûr, il y avait Patty, Suzy et Nancy Quattro. Mais Suzy a toujours été dans les Pleasure Seekers et dans Cradle. Enfin, au début de Cradle en tout cas. Et au début 70, elles ont fait un concert où il y avait plein de groupes. Alors c'était au Grundy Ballroom naturellement, il y avait les Amboy Dukes, les Stooges et Fairport Convention.
Tiens, encore. C'est toi qui le rajoute sur la liste.
Non, à vous. Vérifier, je n'invente rien. Mais qu'est-ce qu'il venait faire dans cette galère? Parce que ce n'est pas trop l'ambiance. Voilà. Non, mais en fait, je crois que ce n'était pas le même concert, à vrai dire. Je pense qu'ils ont dû ouvrir pour tous ces gens-là. Et blablabla. Où est-ce que j'en suis?
Ça c'est l'effet King Crimson, tu vois. Bon, on ne fera pas une année pour Namur si tu veux.
La fin de 1970, elles ont fait ce concert au Grundy Ballroom avec les MC5, les Amboy Dukes et SRC.
Oui.
Donc là, du groupe Detroit. Et je crois que ce sont des extraits de ce concert qui sont utilisés pour ce disque qui s'appelle The History, qui est donc un disque d'archives de Cradle. Et donc c'était des morceaux tout à fait différents et des morceaux plutôt proches du rock heavy 70s qu'on aime bien ici. Et on va s'écouter un morceau court pour 2 minutes 18 qui s'appelle Peter Porno et qui est, paraît-il, un hommage à leur copain du groupe Mountain. D'accord. Je sais pas si je veux des hommages comme ça. Mais enfin, voilà, c'est Cradle.
I'm tired of on in, do me in.
C'est le morceau suivant, on va pas s'écouter tout le disque de Cradle quand même, on en écoutera d'autres plus tard, et on s'est rendu compte qu'on était en train d'oublier la rubrique Creedence, et donc ça ne va pas du tout, et donc on va se passer un morceau pour vous dire que ça va pas du tout, on l'a calé à l'arrache, et donc il est peut-être pas calé, ça c'est un morceau, une reprise si je me souviens bien, qui se figure sur le premier album de Creedence, qui s'appelle 99 and a half won't do. 90.
Your heart, 99 and a half.
Eh bien voilà, rubrique Creedence, Nine and a Half Won't Do. Notre émission n'aurait été que 99 and a half complète si on n'avait pas passé Creedence, voire même beaucoup moins que ça, ça aurait été 90. Quoi. Bon. Mais en attendant, les Baby Dinosaurs, c'est fini. Les Baby Dinosaurs, ça dépasse horaire. Comme d'habitude, les Baby Dinosaurs, ça se viande dans les grandes largeurs. Bah ouais, parce que qu'est-ce que vous voulez? Un brontosaure, c'est un peu la taille d'un 50 tonnes et donc c'est pas facile à manœuvrer. On va se retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain, de 21h30 à 23h sur les 92.9 MHz de Canal Sud que vous écoutez présentement. Et vous pouvez même nous retrouver à n'importe quel moment. Je vous dis un petit secret, il y a un site de Canal Sud, www.canalsud.net. Vous allez là-bas, vous avez une rubrique de l'émission Baby Dinosaur. Et sur cette rubrique, vous pouvez récupérer et même streamer ou downloader, et c'est comme vous voulez, enfin télécharger, les MP3 de quelques centaines d'émissions de Baby Dinosaur qui vous attendent. Et celle-ci devrait être en ligne d'ici moins de 24 heures. Elle sera aussi rediffusée dans 8 jours sur les mêmes ondes de Canal Sud, 92.2 MHz, et en direct sur l'adresse que je vous redonne à tout hasard, www.canalsud.net. Tout ça vous permet de suivre l'actualité de l'émission et même son passé, car nous avons un passé, on a beaucoup plus de passé que d'avenir, c'est sûr, quand on passe de la musique qui est toujours entre 68 et 76 comme année de référence. Quoi qu'il en soit, il est probablement temps de mettre fin à ces lamentables déblatérations et de vous dire bonne nuit. Sauf que pour ça, il faudrait avoir un jingle. Et pour ça, il faudrait avoir réfléchi un peu. C'est pas le genre de choses pour lesquelles les dinosaures sont célèbres. Non, pas du tout. Non, en fait, on essaie d'éviter, à vrai dire. Donc, quelque part, un jour, il arrive un moment où on cale le jingle de fin et qu'on dit vraiment bonne nuit. Hop, stop, stop, stop. Oui, sauf que voilà, il reste un petit frelon dans le module, il reste un petit clé à molette dans la machine, il reste une petite mouche dans le miel, mais cette fois-là, c'est la bonne.
Parmi ces